Le micro est à toi, dans la tribu.
Cette année scolaire, les élèves de CM1, CM2 de l'école Lamartine ont travaillé avec la tribu. Nous avons décidé de leur lancer un défi, se transformer en enquêteur ou en détective.
De toute façon, ce matin, ça va être particulier. Vous savez pourquoi ? Chaque groupe a fait un texte sur une personne qu'on vous a présentée, une personne qui était en photo. Et là, pour enregistrer, on ne va pas être tous dans la classe à écouter le groupe qui s'enregistre.
Leurs indices, une photographie, et c'est tout. À eux d'imaginer la vie de cette personne.
Ce n'est pas une défaillance de votre téléviseur, n'essayez donc pas de régler l'image. Nous avons le contrôle total de l'émission. Contrôle du balayage horizontal, contrôle du balayage vertical. Nous pouvons aussi bien vous donner une image floue qu'une image pure comme le cristal.
Bonjour,
vous êtes bien sur la radio La Tribu.
Avec les CM1, CM2 de l'école Lamartine, les plus beaux et les plus belles de l'école.
Et nous prenons le contrôle
de La Tribu.
Irréel.
Le 6 juin 1944, lors du débarquement en Normandie, Jean de Neyman, alias l'Épervier, allume une lumière une nuit en plein orage sous le risque de se faire
électrocuter, permettant au bateau anglais de débarquer. En 1946, il est récompensé à la Légion d'honneur. Un an après, Jean devient ministre de la Protection civile.
Cet homme juste améliore la nourriture dans les pénitenciers et les prisons. Ce grand homme a fait reconstruire plusieurs écoles, dont l'école Jean Jaurès.
Les travaux étaient difficiles car il y avait des débris partout. Il est mort en 1950 de maladie sous un grand soleil.
Irréel.
Une fois, un homme qui s'appelle Dominique Patrick Morel est à 25 ans nommé meilleur professeur de France.
Ce jour-là, il était invité à l'Élysée. Mais ce jour-là, un drame se passait dans le lac de l'Élysée.
Le chien de Charles de Gaulle était en train de se noyer. Le président Charles de Gaulle ne savait pas nager. Du coup, le professeur Dominique a dû
se déshabiller et plonger dans le lac. Il a pris le chien du président et il est reparti sur le bord du lac.
Réel.
Jean Neyman. Il naquit le 2 août 1914 à Paris, le jour de la mobilisation générale de la guerre de 1914. Il était très bon à l'école, parlait couramment l'anglais et l'allemand. C'était aussi un très bon bricoleur et très bon réparateur d'appareils ménagers.
À partir de 1934, il commença ses études à Strasbourg. À cette période, avant même le début de la guerre, il débuta ses actes militants politiques. Il dirigeait et vendait un journal envoyant de colis aux antinazis emprisonnés en Allemagne. Et pour faire libérer un jeune Allemand, il organise un faux mariage avec elle, un mariage blanc, puis divorça quelques temps plus tard.
Il fut également engagé dans de nombreuses associations et mouvements de représentation de jeunes étudiants et eut de nombreuses responsabilités. Après ses études, il devint professeur dans un lycée.
Jean de Neyman était très myope. Alors, au moment de la mobilisation générale pour la Seconde Guerre mondiale, il ne pouvait pas être mobilisé comme soldat. Il fut donc mobilisé dans un laboratoire où l'on vérifiait la nourriture de l'armée française.
À ce moment-là, il fut également démobilisé de l'enseignement public. Étant d'origine étrangère, ses parents étaient polonais, mais il devient alors professeur au cours secondaire privé de Sid à La Bolle. Il y menait une intense propagande anti-allemande et réussit à entrer en contact avec les résistants communistes nazériens.
Et mai ou juin 1944, il rentra dans la clandestinité avec son groupe de francs-tireurs et partisans basés dans la ferme de Madame et Monsieur Joseph Jargot à Kermichel en Saint-Molf. Ils multiplièrent les actions de guérilla contre l'ennemi, capture d'équipements et d'armes, sabotage de transformateurs électriques et coupure de câbles, chasse des pilleurs de fermes, aide à la désertion de travailleurs forcés polonais et de marins allemands.
En août 1944, deux marins allemands déserteurs se joignirent au groupe de résistants et participèrent à quelques actions. Mais le 17, ils furent surpris par une patrouille allemande. L'un fut arrêté. Jean de Neumann essaya de le secourir en discutant avec les soldats, mais il fut arrêté à son tour et tous deux conduits au château d'Alex à Saint-Nazaire, puis au camp Franco de Gron. Il réussit finalement à innocenter ses camarades en prenant pour lui toutes les responsabilités. Jean de Neumann avait assuré sa défense avec un courage qui impressionna l'ennemi, mais cela ne suffit pas à le sauver. Il fut condamné à mort le 25 août 1944, le jour de la libération de Paris.
Aujourd'hui, une avenue de la ville à Saint-Nazaire porte son nom et une stèle en son honneur est installée dans le parc de l'hôpital d'Alex, à l'endroit où il a été exécuté.
S'acclimate fort bien au nouveau climat. Ils te disent que c'est ta faute si tout s'était éteint pour toi. Mais y a bien des étoiles mortes que je vois briller là-bas.
Labrousse, plus connu sous le nom de Jack, a participé à la destruction du mur de Berlin.
Malin comme il était, il réussit à donner des renseignements sur la position des patrouilleurs.
Le jour où les habitants prévoyèrent de détruire le mur, il pleuvait et il y avait beaucoup de neige.
Finalement, ils réussirent à détruire le mur.
Et c'est ainsi que Jag, l'agent 017, a été porté en triomphe malgré ses gros sourcils jusqu'à Saint-Nazaire.
Réel.
Philippe Labrousse, il naît le 28 octobre 1908 à Paris. Il eut une enfance difficile puisqu'il perdit ses deux parents la même année, alors qu'il n'avait que 19 ans. Il fut recueilli par une autre famille. Il commença des études de médecine en 1929 à Nantes, puis à Angers. Mais il échoua et se tourna vers le droit et obtient son diplôme.
Après son mariage, il s'installa rue de la Havane à Saint-Nazaire où il travaillait au chantier de Pinouette. Il était très courageux puisqu'en plus de son travail, il étudiait aussi le soir. Il obtint deux diplômes supplémentaires mais certains de ses travaux ne purent être finis à cause du début de la guerre. Pendant la guerre, sa cousine de Saint-Nazaire, Jeanne et son fiancé Max étaient des résistants. Ils avaient caché des armes récupérées et ils hébergeaient des officiers anglais. Le couple fut arrêté en 1941 après avoir été dénoncé.
Philippe Labrousse aida Max à s'échapper et à se cacher. La fuite réussit après 5 jours passés sur un bateau sur l'Erdre. Pour ces faits, il fut arrêté le 12 avril 1941 à Saint-Nazaire et fut accusé d'action en faveur de l'ennemi, d'aide à des prisonniers de guerre, évadés et soupçonnés d'avoir détenu des explosifs chez lui. Pour tout cela, il fut incarcéré en prison à Nantes.
Il fut probablement jugé à Nantes où il aurait été acquitté ou condamné à une simple peine de détention. Mais il fut malgré tout fusillé comme otage le 22 octobre 1941 au Mont Valérien, une région parisienne, à 16h. Il faisait partie des 48 otages du 22 octobre 1941 à Châteaubriant, Nantes et Paris, fusillés en représailles de l'attentat contre un lieutenant-colonel nazi, responsable des troupes d'occupation en Loire-Inférieure et abattu à Nantes par des résistants le 20 octobre 1941. La mention « Mort pour la France » lui a été attribuée par le ministre des Anciens Combattants le 22 mars 1948.
Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes bien à la radio La Tribu. Vous êtes en ce moment dans l'école Lamartine de la classe CM1-CM2 et celle des plus beaux et plus belles de l'école, bien entendu. Nous allons vous raconter l'histoire de Jean Brosseau.
Irréel.
Jean l'avocat et le serpent. Jean l'avocat est parti à Saint-Nazaire au Mexique à l'âge de 46 ans pour défendre son ami d'enfance qui était à Lamartine avec lui qu'on avait 10 ans qui se prénomme Paul.
Son ami Paul est un spécialiste des serpents et en fait du trafic au Mexique.
Jean retrouva son ami dans son camp pour le défendre, mais à peine arrivé, il se fit mordre par un
serpent. Et il devint le meilleur avocat du monde.
Réel.
Jean Brosseau. Jean naquit le 26 décembre 1905 à Nantes. Il était le fils d'un facteur des postes.
Avant la guerre, il était d'abord professeur de mathématiques à Saint-Nazaire. Il avait la réputation d'être très autoritaire. Certains de ses élèves disaient qu'il les terrorisait, mais qu'il était juste et qu'il n'hésitait pas à donner des cours en plus gratuitement aux élèves en difficulté.
Au début de la Seconde Guerre mondiale, Jean Brosseau se battit en 39-40. Il fut ensuite démobilisé. À son retour à Saint-Nazaire, il trouva une ville en guerre déjà cible de nombreux bombardements. De retour à son école, il retrouva des collègues qui, comme lui, ne pouvaient se résoudre à la frange de Vichy et à l'occupation.
Ce fut une immense déception quand il apprit que tous les députés de Loire-Inférieure, dont François Blanchot, son ami, avaient voté les pleins pouvoirs au maréchal Pétain. Quand son ami François Blanchot lui rendit visite, il entra dans une grande colère et lui dit qu'il devrait rendre des comptes à la Libération. Il entre alors en résistance, il n'utilise pas la violence.
Il participe à des opérations de parachutage, fait du renseignement à la sortie de la guerre. Son réseau est dénoncé et il est arrêté en avril 1944. Sa fille avait 13 ans et son fils 1 mois. Il est d'abord envoyé en prison à Angers, puis au camp de Neuengamme, où les conditions de la vie et de travail sont très durs. Jean Brosseau tombe malade et décède en février 1945. À la reconstruction de Saint-Nazaire, son ami François Blanchot, maire de la ville de Saint-Nazaire, à son hommage, le premier collège portera le nom de Jean Brosseau.
Bien dans la tribu avec les CM1, CM2 de l'école Lamartine.
Irréel.
Le groupe de Ludmilla, Dany, Aaron et Maxime.
À 20 ans, elle était chef des tireurs d'élite car c'est la fille de Charles de Gaulle et elle était douée.
Nous sommes en 1940, elle se propose d'être chef de tireurs d'élite et elle est formée.
À la fin de la guerre, elle gagne une médaille pour avoir tué un chef de l'armée allemande d'une balle dans la tête.
Irréel.
L'histoire de la dame la plus vieille de Saint-Nazaire.
Au début de la Seconde Guerre mondiale, Jacqueline Jolie avait 12 ans.
Son père était résistant en Allemagne, il espionnait Hitler dans son palais.
Un jour, Hitler le repéra et l'attacha à des chaînes, puis le mit dans une cage et le tira 10 balles dans la tête. Depuis ce jour-là, Jacqueline joue aux fléchettes avec la photo d'Hitler.
89-1, après elle est devenue championne de fléchettes avec la tête d'Hitler.
À l'heure d'aujourd'hui, c'est la femme la plus vieille de Saint-Nazaire.
Réelle,
Christine Cabalet. Elle est née en 1930, elle vit toujours. Elle considère qu'elle eut une vie toute simple. Alors qu'elle avait 18 ans, son père engagé politiquement, sa fille réquisitionnée pour entrer en résistance. On lui demanda d'entreposer des armes et de faire des tracts. Christine et sa maman avaient donc la mission, tous les soirs, de fabriquer ces tracts et de la distribuer dans les boîtes aux lettres tout en évitant les patrouilleurs allemands. C'était pas facile, raconte-t-elle.
Le 1er avril 1943, la police française, des gens comme vous et moi avec des cirés noirs et des bottes, rentra chez elle en fracturant la porte et en frappant. Toute la famille, elle se fit interroger par la police, puis enfermée en prison à Nantes. Mais là, elle rencontra un gardien très courageux qui fit en sorte que son passage en prison soit moins difficile. Elle put être détenue avec sa maman, le gardien et sa femme leur apportaient des repas et leur permettaient de marcher un peu dans le couloir de la prison. Il faisait même passer ses petits messages à son papa en secret, détenu dans un autre bâtiment. Ce gardien de la prison cachera même son papa blessé pendant quelques semaines.
Elle fut ensuite transférée à la prison de Rennes, puis à Romainville, avant de partir en train pour le camp de Ravensbrück en Allemagne et découvrit la haine des nazis pour les Français en lutter contre eux. Elle fut ensuite envoyée dans une usine de fabrication d'obus en juillet 1944, toujours en Allemagne. Là, elle avait le droit de manger une tartine de pain le matin et une soupe d'épluchure de légumes le soir. L'usine était surveillée par des gardiens profondément anti-nazis. Et ensemble, ils faisaient en sorte de faire tomber les machines en panne. Elle indique que c'était notre rôle, il fallait saboter le plus possible malgré les risques encourus.
La nuit du 8 mai 1945, les personnes retenues dans le camp ne purent pas dormir, tellement les bombardements autour étaient intenses. Au matin du 8 mai, on leur annonce au micro que le portail est ouvert et qu'elles peuvent s'en aller. Christiane quitte le camp en courant avec sa maman et toutes ses camarades françaises.
À la sortie, elles étaient seules, obligées de casser des portes de maisons abandonnées pour se mettre à l'abri, mais recevaient de l'aide d'anciens prisonniers de guerre.
En juin 1945, elle retrouva son papa en France à la descente du train, mais dû faire un séjour de 1 mois et demi à l'hôpital car un de ses poumons était très affaibli.
Après tout ce qu'elle vécut, elle réussit à reprendre une vie normale en travaillant à la SNCF. Puis se maria, eut des enfants. Elle reprit avec son mari en un restaurant à Saint-Nazaire, expérience qu'elle a beaucoup appréciée.
Christine Cabalet a consacré sa retraite à témoigner dans les écoles, a raconté infatigablement ce dont elle a témoigné pendant la Seconde Guerre mondiale. Il faut que la jeunesse sache que ça a existé, insiste-t-elle en parlant de la déportation.
Ma journée est passée à une de ces vitesses. Pas mis le nez dehors et pas lavé. À ça je déteste. Batterie faible, j'ai pas de quoi recharger. Et ça n'arrive que moi. Je voulais faire des stories qui t'étaient dédiées. Je sais pas te dire pourquoi. Regarde comment je souris. Regarde encore. Je veux savoir ce que t'en dis. Quand je souris trop fort, c'est faux peut-être, mais au plus je ris. Au plus je te donne tort de pas vouloir m'aimer. C'est oui ou bien c'est non. Hier tu me voulais. C'est oui ou bien c'est non. Demain tu me feras marcher. C'est oui ou bien c'est non. Je vais devoir t'oublier. C'est oui ou bien c'est non. Hier encore on était liés. J'étais celle de tes rêves. Celle qui comble tes nuits, c'est la mariée. Faut dire que ce fut bref. Ta nuit n'a duré qu'une seule soirée. Genre romantisme express. T'as pris le temps de venir mais pas de rester. Tu m'embrasses puis tu me laisses. Regarde comment je souris. Regarde encore. Je veux savoir ce que t'en dis. Quand je souris trop fort. C'est faux peut-être mais au plus je ris. Au plus je te donne tort de pas vouloir m'aimer. C'est oui ou bien c'est non. Hier tu me voulais. C'est oui ou bien c'est non. Demain tu me feras marcher. C'est oui ou bien c'est non. Je vais devoir t'oublier. C'est oui ou bien c'est non. Pourquoi tes j'aime comptent plus que ceux des autres. Pourquoi même quand ils m'aiment, je te veux toi jusqu'à l'aube. Pourquoi je me mens à moi-même en croyant ce que tu me racontes. Quand tu m'écris que je suis belle et finalement c'est des mensonges. C'est oui ou bien c'est non. Hier tu me voulais. C'est oui ou bien c'est non. Demain tu me feras marcher. C'est oui ou bien c'est non. Je vais devoir tout.
J'avais été étonnée d'apprendre qui était votre personne.
C'est Jean Brosso.
Et alors, t'étais étonnée de découvrir son parcours ?
Un peu.
Oui.
Bah, je pensais pas que c'était un résistant.
Qu'est-ce que ça vous a appris de faire cet exercice ?
D'imaginer une histoire vraie.
On s'est totalement trompé, oui.
Bah, en fait, on a imaginé une histoire, mais après, on a su la vraie histoire et du coup, on a vu qu'on était complètement à côté de la plaque.
Quel regard portez-vous sur ces personnes, sur tous ces résistants ?
Bah, ils avaient du courage, je pense. Ils ont fait des choses bien.
Et pourquoi, à votre avis, c'est important d'en parler encore aujourd'hui, des résistants ?
Parce qu'ils ont sauvé des gens, ils ont sauvé des vies. Ils ont défendu la France.
Ils avaient du courage.
Là, on vient de savoir que c'est on vient de savoir c'est quoi son prénom et qu'est-ce qu'elle faisait.
Et vous êtes surpris ou pas ?
Bah oui, parce que nous, on pensait qu'elle jouait vraiment aux fléchettes avec la tête d'Hitler.
Et qu'est-ce que ça vous a appris ou...
Bah, ça nous a appris toute son histoire.
Ça nous a appris à réfléchir et à inventer des histoires aussi.
Quel regard avez-vous sur toutes ces personnes, sur ces résistants ?
Bah, ils ont défendu la France un peu, vu que sans eux, peut-être, on n'aurait pas gagné la guerre.
Au début, on commençait par parler de titans, et la maîtresse nous a dit de changer, et les outils ont changé, parce que moi, j'étais pas là.
Est-ce qu'il y a eu des indices qui vous ont aidé sur la photographie pour trouver cette histoire ?
Bah, elle avait une médaille. Elle avait une médaille de l'armée.
Et pourquoi est-ce que vous êtes partie sur la Seconde Guerre mondiale ?
Parce qu'elle avait l'air assez vieille,
pour la guerre. On devait savoir quelle a été de la guerre.
Et quel regard vous portez sur les parcours de ces personnes, de ces résistants ?
Un regard admiratif. On peut prendre exemple sur eux. Elle est dans la prison, donc c'est triste.
Ça m'inspire de la tristesse parce que la prison, les épluchures et des trucs dégoûtants, c'est un petit peu triste.
Je me dis, se faire fusiller quand même, c'est un risque. Bah, il a mis sa vie un peu en danger et moi, je voudrais pas être comme lui.
Bah, moi, je trouve qu'il a fait beaucoup plus de trucs. Il a fait plus de trucs de ce qu'on a mis dans le texte qu'on a inventé.
Ah, c'est-à-dire que sa vie, la vraie vie, finalement, était plus impressionnante que ce que vous aviez inventé.
Bah, un peu, mais enfin, il a quand même pas fait beaucoup de choses.
Ah non, mais t'as raison, hein. Qu'est-ce que ça vous a appris de faire cet exercice ?
Bah, l'expression écrite, le vocabulaire, et mieux parler français.
Et connaître l'histoire, leur histoire, et à la guerre mondiale. Il y avait des personnes qui sauvaient d'autres personnes, et voilà.
Bah, moi, je trouve que c'est un peu dur de trouver l'histoire, d'en faire une, parce que faut avoir une idée.
Quel regard portez-vous sur ces résistants ?
Ah, je trouve que c'est bien.
Bah, ils sont vraiment courageux. Mais il y en a un, bah, il s'est sacrifié pour deux Allemands.
Bah, ça m'a un peu choqué parce que faut vraiment oser de faire des choses comme ça. Et prendre des balles dans la tête, c'est vrai que personne n'aimerait en avoir. Hein.
Et aussi, du coup, on sait qu'il y a des Allemands qui étaient avec nous, qui nous aidaient.
C'est intéressant qu'on n'a pas fait la même histoire et c'est intéressant de connaître la même vérité histoire.
Alors, c'était presque la vraie histoire.
Parce qu'on avait des professeurs.
Oui. C'était pas du tout la même histoire, ça ressemble pas du tout, mais c'est bien.
Est-ce que de faire cet exercice, ça vous a appris quelque chose ?
Que la guerre, c'est très dur.
Ouais, que la guerre, c'est très dur, dur, dur.
Qu'il y aura une troisième guerre mondiale.
On va avoir une
troisième guerre mondiale, je pense.
Marre de prédire l'avenir.
Quel regard portez-vous sur ces résistants ?
Ils sont courageux, ils sont forts.
Ils sont courageux.
Ils sont tous morts sauf une fille.
Bah, en fait, moi, le midi, quand je suis rentrée chez moi, j'ai demandé à mes parents s'ils connaissaient Jean de Neumann. Ils m'ont dit qu'il avait été fusillé quand les Alliés ils avaient libéré Paris. Et aussi, une fois, quand je suis allée au sport, on est passé par le boulevard et la rue Jean de Neumann. Alors, du coup, ben...
Tu savais déjà ?
Oui.
Alors, toi, t'as été surpris ?
Oui, j'ai été surpris, parce que moi, j'ai cru que c'était un professeur d'école et qu'il n'allait pas se faire tuer. J'ai cru qu'il était mort en 1950.
Ouais, moi aussi un peu pareil, mais bon.
J'ai été surpris qu'il soit né en 1914, juste la mobilisation générale.
Qu'est-ce que ça vous a appris de faire cet exercice ?
Lire. Lire et à bien comprendre. J'ai compris des trucs. Avec les histoires où ils sont morts, en quelle date, il avait fait quoi, et voilà.
Connaître des personnages qu'on connaît pas forcément, voir ce qu'ils faisaient et où ils sont nés, alors qu'on le savait pas forcément.
Est-ce que vous saviez qu'à Saint-Nazaire, il y avait eu des résistants ?
Oui.
Non, moi, je ne savais pas.
Moi, je savais.
Oui, parce que il y avait plusieurs sous-marins, donc c'était un peu logique qu'il y avait des résistants qui trafiquaient les sous-marins allemands.
Et quel regard portez-vous sur tous ces résistants ?
Ben, qu'ils étaient courageux.
Et qu'ils étaient célèbres aussi, et connus. Et qu'ils ont fait quelque chose de bien.
Et aussi, pour apprendre qu'il ne faut jamais abandonner, il faut toujours résister.
Merci beaucoup aux élèves de la classe de CM1, CM2 de l'école Lamartine de Saint-Nazaire, les plus belles et les plus beaux, bien évidemment, de leur établissement. Merci beaucoup à leur enseignante Cécile Jamin pour son aide et son accompagnement. Merci aussi à Myriam Cariou de la ville de Saint-Nazaire, à Camille Dubard-Dauphin de la Carène et à Caroline Lévesque-Joliveau d'Escalado.